Que signifie pour vous le mot vacances? Quel rêve évoque-t-il?
Bah, l'arrêt complet du travail.
Mais pour moi, c'est une évasion, quelque chose qui rompt avec la monotonie.
Enfin, les vacances avec un grand V, comme on les voit habituellement, quoi.
Le touriste veut tout voir, tout savoir.
Ça ne nous aura pas échappé, nous n'avons jamais autant voyagé. Et il est de taille, le tourisme est à lui seul responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.
Nous montrons ce que tous les étrangers s'attendent à voir.
Des riverains excédés, des visiteurs mécontents et des écosystèmes de plus en plus fragilisés.
On entend parler de tourisme durable, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Ce tourisme-là, c'est pas drôle, c'est contraignant, faut aller à l'autre bout du monde, c'est cher, on s'ennuie.
Comment sauver nos vacances sans ruiner la planète?
Bienvenue sur le verre à moitié plein. Aujourd'hui, je reçois Adrien Ruffino, un biterrois à l'accent chantant qui a quitté son job confortable pour créer un métier en accord avec ses valeurs. En pleine pandémie, Adrien reprend l'association de son père, Solidérance, pour monter une agence de voyage dédiée au tourisme régénératif en Colombie. Un parcours de vie et une philosophie inspirante et la découverte du tourisme régénératif que l'on pourrait décrire de façon très théorique et très utopique comme une nouvelle version du tourisme durable. Une sorte de tourisme durable 2.0 où, plus que protégé, le tourisme vise à rendre meilleur le lieu visité. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec l'interview.
Bonjour Élise et merci d'abord pour l'invitation. Je suis très content de faire partie de ce podcast et de pouvoir un peu partager ma vision et partager un peu les ressentis sur ce terme de tourisme régénératif j'en suis ravi, prend de plus en plus d'espace dans la communication de cette industrie du tourisme. Moi je suis, pour me présenter succinctement, je suis d'abord un autodidacte complet dans du tourisme. Je suis un petit nouveau, on pourrait dire. Moi, ma carrière professionnelle, elle s'est faite dans l'industrie du sport et des marques de sport, puisque j'ai travaillé 9 ans chez Adidas et dans d'autres marques avant. Donc moi, je suis un autodidacte dans le tourisme. Je suis très content d'avoir changé de vie parce qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de sens. J'ai eu besoin de trouver un peu plus de cohérence dans ce que je faisais, dans ce que j'étais, j'avais l'impression d'être en tout cas. Et du coup, je suis rentré dans le tourisme, mais par une porte un peu spécifique. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà un peu pour me présenter. J'ai 40 ans et je vis en Colombie et je suis maintenant un acteur des voyages que je qualifie plutôt de solidaire et régénératif.
On va parler de tout ça, mais pourquoi la Colombie déjà? Parce que ça va être le cœur de ce podcast après la Colombie. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à aller vivre là-bas?
Alors je suis parti en Colombie justement pour mon ancienne vie professionnelle. Chez Adidas, j'avais des fonctions managériales, commerciales on va dire, et j'ai eu l'opportunité de postuler à un poste qui pouvait correspondre à mes attentes à ce moment-là en Colombie. Et donc du coup, je suis parti chef des ventes pour la Colombie, pour Adidas, pour Reebok, les deux marques pour lesquelles je travaillais. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans ce pays, évidemment dans des conditions plutôt très confortables, d'une grande boîte, et je suis arrivé à Bogota. Voilà, j'ai travaillé pendant 3 ans et en travaillant chez Adidas et en vivant à Bogota, j'ai pu commencer mon exploration de ce magnifique pays où je profitais des week-ends et autres pour rencontrer ce pays tant divers et tant magnifique.
Et est-ce qu'il y a eu un déclic? Comment ça se fait que tu as décidé d'arrêter du coup cette vie confortable pour te lancer, donc tu l'as dit tout à l'heure, une quête de sens? Mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu un déclic? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi?
Bah, je pense que ce genre de décision, moi j'ai démissionné, hein, clairement. C'est des décisions qui arrivent effectivement, comme tu dis, à un instant précis, mais c'est le résultat d'un cheminement. Ça faisait longtemps que j'avais en tête le fait qu'un jour je prendrais un sac à dos et que je partirais voyager pour prendre du temps pour moi. Et l'instant est arrivé au moment où les contextes, les conditions faisaient que je ne m'y retrouvais plus dans les opportunités que je pouvais avoir au sein d'Adidas, que je ne me retrouvais plus dans ce que je faisais au quotidien et que j'avais besoin d'aller chercher un peu de cette cohérence entre guillemets. Et donc, du coup, voilà. Et puis, c'est aussi un moment où j'étais clairement plutôt très fatigué. Et je me suis dit, ben voilà, là, c'est le moment de faire un break. Et donc, du coup, rapidement, j'ai pris la décision. J'ai posé ma démission. Et puis quelques mois après, je suis parti en voyage. Voilà, j'ai fait ce dont j'avais rêvé depuis quelques temps. Là, on est en fin 2019. J'ai pris mon sac à dos et je suis parti le long de la cordillère des Andes.
Et là, maintenant, tu as lancé ton agence de voyage, Solidérance. Tout à l'heure, tu disais que c'est une agence de voyage de tourisme solidaire et régénératif. Le tourisme solidaire, je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde, mais régénératif un peu moins.
Oui, alors je pense qu'il faut d'abord, il faudrait que je commence un peu par la genèse et comment Solidérance est arrivé à proposer ce type de voyage. Ben justement, quand je suis parti, moi, sac à dos, le long de la cordillère des Andes, j'avais deux intentions. Ouais. La première intention, c'était de faire de la montagne, parce que j'adore ça, des treks, des randos, de l'escalade. J'ai eu l'occasion de faire deux 5007. Donc, le long de la cordillère des Andes, l'intention, c'était la montagne et découvrir, expérimenter ce concept dont j'avais commencé à entendre parler de permaculture. Concept que je trouvais intéressant, mais dont je n'avais pas encore toutes les clés et toutes les connaissances. Et je sentais qu'on en parlait beaucoup et j'avais besoin d'en savoir un peu plus. Et donc, du coup, en plus de faire de la montagne, en Équateur, au Pérou et au Chili, j'ai pu aller faire du volontariat dans des fermes ou chez des familles qui vivent sous les valeurs de la permaculture. Donc, j'ai pu découvrir un peu cette forme de vie, ce mode de vie. J'ai aussi fait mon cours certifié de permaculture, qui s'appelle le PDC en anglais, au Chili, en Patagonie. Et ça a été un peu une révélation pour moi de découvrir un peu le côté holistique de ce mot, de ce terme permaculture et tout ce que ça englobe. Et ça a fait beaucoup de sens pour moi dans cette forme de vie, dans ce concept de vie.
Et la permaculture, juste, qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas.
Alors, encore une fois, moi, je suis pas ni un expert ni un scientifique. C'est juste un peu ma sensibilité et mon expérience. En fait, la permaculture, elle est basée sur trois valeurs. La permaculture, c'est d'abord prendre soin de la terre, c'est prendre soin des hommes et prendre soin des gens, et c'est établir des limites pour une répartition équitable de tout, des résultats, du temps, des produits, de l'argent et autres. Et donc, sur ces trois valeurs, il y a des techniques qui s'appliquent évidemment, mais surtout il y a sept champs d'application. C'est-à-dire qu'on va tenter de prendre soin de la terre, des gens, établir des limites, pas seulement sur le côté agricole, alimentaire et la terre. Évidemment, ça n'est un champ d'application, la terre, le côté agricole, mais aussi l'habitat. Donc, quand on parle d'habitat, ben, on parle de bioconstruction, d'éco-construction, d'optimisation des cycles de l'eau. On parle aussi de toutes ce qui concerne les outils qu'on va utiliser, les infrastructures, et puis l'éducation, la santé, la gouvernance et l'économie. Donc en fait, la permaculture, c'est prendre soin de la terre, prendre soin des gens, établir des limites pour refonder une société un petit peu plus respectueuse et qui justement va avoir l'intention de régénérer un territoire et une communauté. Et donc en fait, en voyageant et en découvrant ces valeurs de permaculture qui sont appliquées d'un point de vue holistique, je me suis dit, mais c'est quand même génial de découvrir un pays au travers de familles, au travers de gens, justement, qui vivent sous ces valeurs-là. Et c'est comme ça, petit à petit, que je suis rentré dans la création, ou en tout cas dans l'intention de créer Solidérance pour faire découvrir la Colombie avec ces valeurs-là. Voilà.
Et Solidérance, ça existait avant déjà?
Alors Solidérance, le mot existait, c'était une association qu'avait monté mon père quand il était à la retraite. Il voulait lui faire découvrir le Sénégal de manière solidaire dans un petit village. Et en fait, l'intention, c'était d'aller s'immerger chez ses habitants et en plus de pouvoir, avec le coût du voyage, les voyageurs participaient à l'achat de graines, de semences. Ils ont même apporté d'une vingtaine d'arbres dans ce petit village. Donc bon, voilà l'intention de mon père. Et donc moi, quand j'ai décidé de reprendre Solidérance, j'ai rajouté à l'aspect solidaire l'aspect régénératif. Et pourquoi? Parce que ma clé d'entrée dans le voyage, dans les expériences que je veux proposer, c'est justement ces valeurs de la permaculture. Et en fait, on se rend compte que in fine, l'intention d'une vie permacole, c'est de se régénérer, c'est de régénérer sa communauté, c'est de régénérer son territoire. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai fait le lien entre les voyages solidaires et les voyages régénératifs, parce que les expériences que je propose, c'est justement chez des familles qui, au quotidien, tentent, souhaitent ou font tout pour régénérer leur territoire et leur communauté.
Et donc, le tourisme régénératif, l'idée, c'est qu'au départ des touristes, le lieu soit dans un meilleur état qu'à leur arrivée. C'est un peu ça, si on devait résumer.
Ouais, alors ça, c'est une définition qui a été donnée en 2019 par Anna Pollock, qui est un peu une des premières théoriciennes, académiciennes sur le sujet. Et effectivement, ce qu'elle propose comme définition, mais qui est un peu restrictive, mais en tout cas qui va un peu dans la philosophie du sujet, c'est de dire comment, en tant que voyageur, je peux participer, je peux impacter positivement le territoire que je visite et tenter de le rendre d'en partir en le laissant dans un meilleur état que quand j'en suis arrivé. Alors bon, c'est évidemment très imagé tout ça, mais l'état il peut prendre plein de formes justement différentes. Et puis ce qui est important dans le voyage régénératif, c'est que la régénération, elle se fait à plusieurs niveaux. Il ne faut pas penser que au territoire, on peut aussi penser aux gens. Puisque c'est ça aussi l'intention, c'est que l'expérience qui va être proposée au voyageur lui permette à lui-même comme personne de se régénérer. Quand on part en voyage, on a des intentions tout à fait différentes. Et moi, les voyageurs de Solidérance, ce que j'espère, c'est qu'ils aient cette intention-là d'aller à la rencontre, de participer, de prendre part à des projets, aux projets que mènent les familles. Et puis, potentiellement, c'est aussi des voyageurs qui ont envie de se régénérer parce que nos vies dans nos sociétés actuelles sont un peu à 3000. Et du coup, ça fait du bien d'aller un peu se régénérer soi-même en vivant des expériences de bien-être, connectées à la nature, avec des gens qui sont pleins d'amour. Donc, c'est aussi ça, la régénération. Hein. C'est pas que le territoire. C'est aussi soi en tant que personne et en tant que voyageur.
Okay, oui, c'est une triple action, les voyageurs, les habitants et le territoire.
Exactement, les voyageurs, ceux qui reçoivent ces voyageurs-là, la communauté et le territoire.
Et j'ai lu dans une précédente interview que tu avais donnée que tu étais assez strict dans ton choix des destinations et des prestataires, des gens avec qui tu travailles, des habitants. Du coup, je voulais savoir comment toi tu choisissais, comment tu mettais en place en fait tes voyages et sur quels critères tu t'appuyais.
Ouais, bien sûr. En fait, quand j'ai décidé de rentrer dans le monde du tourisme et à travers Solidérance, je me suis dit il faut que tu sois le plus cohérent et le plus exigeant possible si tu veux réellement avoir un impact positif. Ben, je sortais d'Adidas, qu'on connaît l'impact que ça peut avoir sur l'environnement. Je me suis dit, si tu rentres dans le tourisme et que tu fais du tourisme entre guillemets conventionnel, t'es pas cohérent. Et donc je me suis dit moi je veux que ces expériences-là, ces voyages-là, ils aient un impact positif. Comment? S'ils sont solidaires et qu'ils sont régénératifs, à travers quels critères je m'assure que l'expérience, elle est profitable pour les deux parties, les voyageurs et le territoire. Et donc, le premier critère, le tourisme ou le fait de recevoir des voyageurs n'est pas l'activité principale des hôtes et des familles avec qui je travaille. C'est une activité additionnelle. Alors, pour certains, évidemment, ça prend le plus gros des revenus, ça prend la majeure partie des revenus, mais ils ont tous, à côté, à travers des fondations, des associations ou juste des familles qui se sont réunies, un propos, une forme de vie, un mode de vie qui tend à prendre soin de la terre et à prendre soin des gens. C'est basé sur quoi ? C'est basé sur des familles qui font de la conservation, de la réforestation, de l'éducation, ou globalement qui prennent soin de leur territoire et de leur communauté. Et donc du coup, je suis allé chercher des familles qui, au-delà de recevoir des voyageurs et de générer des revenus additionnels, avaient un vrai propos et un mode de vie qui tend à ça. Donc le premier critère, c'est le tourisme n'est pas l'activité principale. Le deuxième critère, et c'est en ça d'ailleurs que le voyageur est solidaire, puisqu'il participe et il génère des revenus additionnels. Le deuxième critère, c'était que l'environnement dans lequel allaient s'immerger ces voyageurs, il devait vraiment leur permettre d'expérimenter le fait qu'on peut prendre soin de notre territoire au quotidien et que ça peut passer par l'habitat, la manière dont on vit. Et donc, l'éco-construction est un des critères primordiaux. Toutes les familles avec lesquelles je travaille ont des habitats en éco-construction. L'éco-construction, l'optimisation des cycles de l'eau à travers soit des biofiltres, soit des toilettes sèches, évidemment, l'énergie renouvelable, la tendance à la souveraineté alimentaire, ou en tout cas travailler avec les producteurs locaux et pour manger sain. Ça, c'était le deuxième, c'est le deuxième critère, hein, c'est que l'infrastructure et l'environnement dans lequel les voyageurs vont s'immerger soient le plus respectueux de l'environnement. Le troisième critère, hyper important aussi, c'est que ces familles aient la capacité et l'intention de recevoir des voyageurs, de partager avec eux leur quotidien, de partager leurs connaissances et leurs compétences. Et ça, c'était hyper important. Moi, je ne suis pas là pour obliger qui que ce soit de faire du tourisme, évidemment. Et donc, il fallait que je m'assure aussi que ces gens-là puissent, à travers d'ateliers, à travers de cours, à travers de moments de partage, puissent partager ses connaissances et ses compétences. Et puis, ça, c'était donc le troisième critère. Le quatrième critère, j'ai monté une agence de voyage en plein Covid. Donc, évidemment, quatrième critère, respect des règles sanitaires en vigueur. Mais au-delà de ça, c'est un lieu qui génère du bien-être. Et donc, avec ces quatre critères, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin. Je suis reparti au travers de la Colombie avec mon petit réseau de permaculture, on va dire. Et j'ai rencontré les premières familles à qui j'ai présenté le projet et qui, de famille en famille, m'ont validé l'intention et m'ont amené vers d'autres familles. Donc, j'ai passé 3 mois à la rencontre de ces gens qui ont été 3 mois absolument incroyable et qui ont un peu changé ma vie. Voilà ce qui concerne les critères.
Ce qui m'intéressait aussi de savoir, c'était la partie de terrain, parce que du coup, je me demandais comment tu avais fait pour rencontrer toutes ces personnes. Et donc, en fait, c'est un gros travail sur le terrain que tu dois faire.
En fait, oui, c'est en 2021, quand j'ai pris la décision de démarrer avec Solidérance et que je m'étais écrit mes critères. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que d'abord, j'ai écrit les critères et ensuite, je suis allé à la rencontre de ces familles pour essayer de ne pas tomber dans les facilités. Donc, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et puis j'ai passé 3 mois à reparcourir la Colombie à la rencontre de ces gens. J'ai vécu les expériences avec eux. Avec certains, j'ai passé plus de 10 jours parce que j'étais tellement bien que je ne voulais pas en partir. Avec d'autres, j'ai passé 1 jour, 2 jours, 3 jours. Bon, voilà, toutes les familles qui sont aujourd'hui proposées dans le cadre des voyages de Solidérance, c'est des familles avec qui j'ai partagé du temps, avec qui j'ai passé du temps. Et comme je disais, ça a été vraiment pour moi la forme de cohérence et d'évidence de ce que je cherchais dans ma nouvelle vie. Et quand j'ai rencontré toutes ces familles, c'est là que je me suis dit, j'ai quelque chose à proposer. J'ai quelque chose de différent. J'ai une valeur ajoutée à mettre dans ces voyages. Et pour ceux qui ont envie de venir découvrir la Colombie, je peux leur proposer quelque chose de différent. Et ils repartiront... j'espère, régénérer et impacter positivement. Ouais.
Je me demandais aussi ce qui était le plus difficile pour toi dans la conception de ce séjour solidaire et régénératif.
Ce qui est compliqué potentiellement, surtout, c'est de m'assurer que les attentes entre les voyageurs et ce que je leur propose soient les plus alignées. C'est-à-dire, comme on est sur des voyages assez spécifiques, pour ne pas générer de frustration, il faut qu'on soit bien aligné sur ce que les voyageurs vont vivre chez ces familles. Même quand, il faut dire, les conditions sont un peu rustiques, voilà ce qui va se passer, voilà où vous allez dormir, voilà ce que vous allez faire, vous allez vivre ça, vous allez avoir telle et telle activité, voilà l'environnement, pour s'assurer, encore une fois, de ne pas générer trop d'attentes ou de pas assez d'attentes et d'aligner vraiment ça pour ne pas générer de frustration. Ça, c'est un peu le sujet. Évidemment, le cas est arrivé où une voyageuse est arrivée dans une famille. Je pense qu'elle n'avait pas suffisamment, elle n'avait pas évalué l'environnement dans lequel elle allait s'immerger. Certainement que je n'ai pas assez expliqué aussi. Et donc, du coup, les 2 premiers jours, ça a été un petit peu dur parce que on peut se doucher à l'eau froide. Il pleut parce qu'on est dans une zone tropicale. Les conditions étaient un peu plus rustiques que celles auxquelles elle s'attendait. Et ça a un peu généré de la déception. Quand les voyageurs payent une prestation, ils ont envie d'avoir à la hauteur de ce qu'ils attendaient, évidemment. Ce n'est pas des voyages qui sont formatés, schématisés, ce que je propose. tous les voyages sont différents, les expériences sont différentes parce que les familles vivent des moments différents de leur vie et ont des choses à faire. C'est sûr que quand on prend une semaine au Club Med, a priori, on sait ce qu'on va avoir, quoi. Mais là, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, en fait, le sujet, c'est ça. C'est bien aligner les attentes des voyageurs avec les possibilités des familles et puis construire avec eux le voyage le plus cohérent, quoi.
Et du coup, en parlant de ça, est-ce que là, tu peux nous donner un exemple d'un type de séjour qu'il est possible de faire, des activités qu'il est possible de faire, voilà, un séjour type que tu peux nous proposer.
Bien sûr. Voilà, le séjour type, il faut qu'il soit minimum de 2 semaines. Ça passe par ça, idéalement 3 semaines. Et en gros, bon, la Colombie, c'est quand même un grand pays. Si on veut éviter de prendre plusieurs vols internes, parce que c'est aussi ça le sujet, ben il faut se concentrer sur des zones. Donc si on fait 2 semaines, je propose 2 zones, la région de Medellín et la région des Caraïbes, qui sont les zones un peu incontournables. Et si on fait 3 semaines, dans ce cas-là, on rajoute la zone cafetière. Et pourquoi je dis qu'on fait que 2 zones si on fait 2 semaines? Parce que ben, du coup, par définition, l'intention, c'est que les voyageurs passent au moins 3 nuits, 4 nuits chez les familles. Et donc, du coup, ben, on ne peut pas multiplier les familles. Donc, sur 2 semaines, en faisant Medellín, on passe une première nuit à Medellín pour que les gens, quand même, découvrent cette ville assez trépidante, quand même, qui est assez incroyable. Et ensuite, on va dans une famille, celle de chez Darien et Yumara, à 3 heures de Medellín, dans un petit village à San Rafael. Et là, on est dans une réserve naturelle, à 20 minutes à pied du dernier accès en voiture, chez une famille qui a passé leur vie à reforester. Et là c'est le même projet. Donc, on est dans des petits bijoux de cabane au bord de la rivière, à 20 minutes au milieu de la montagne. Et on est entouré de personnes qui passent leur temps à reforester, à prendre soin. Alors, on peut faire des activités de yoga, de massage, de balade, de marche sensorielle, des cours ou des ateliers de bioconstruction et d'éco-construction et de réforestation. Et ensuite, une fois qu'on a vécu cette expérience assez impactante, on va dans les Caraïbes. On découvre la perle des Caraïbes, Cartagène. On passe une nuit. Je pense qu'une nuit, c'est suffisant. Et puis, on va s'immerger chez une famille, chez Margarita et Ever, à Isla Grande, qui, eux, ont une fondation qui travaille sur la réforestation des mangroves de l'île et sur un gros travail éducatif autour de la transmission de la culture afro-caribéenne. Et enfin, on peut terminer dans un village dans la Sierra Nevada de Santa Marta, donc à Santa Marta, là, une ville à côté, et où là, soit on s'immerge dans une communauté indigène arhuaca, soit on s'immerge chez une famille qui a monté une réserve naturelle et qui sont des petits artistes de l'éco-construction aussi. Et voilà, et on finit le voyage dans une réserve naturelle, dans des petites cabanes, et où on va aussi pouvoir faire du yoga, où on va pouvoir se balader dans la Sierra Nevada de Santa Marta. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir varier les plaisirs entre mer, montagne, c'est de pouvoir varier les plaisirs dans les ateliers. Bien sûr, on a aussi des ateliers de cuisine, il ne faut pas oublier, puisque ça fait partie de la culture, la cuisine évidemment. Voilà, donc on varie les plaisirs, on voyage lentement, on prend du temps pour soi et on rencontre des familles qui ont des projets de vie assez fabuleux.
Et à chaque fois, on essaye de faire un mélange entre les activités de bien-être pour nous et aider, entre guillemets, au travail que font ces familles.
On découvre des activités quand ils vont planter ou quand ils vont travailler leur potager ou autre. On passe du temps avec eux. Voilà, c'est pas du travail, c'est juste un moment de partage et puis où on peut apprendre des choses. Récemment, j'ai des voyageurs qui m'ont dit pour la première fois, j'ai l'impression de rentrer de voyage en ayant réellement appris quelque chose. J'ai appris des choses nouvelles que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que l'éco-construction, pour ça, c'est assez magique parce qu'on découvre des formes de vie différentes et ça donne quand même pas mal d'idées.
Si je te demandais quels étaient les moments privilégiés que tu as pu vivre grâce à ces voyages-là, si tu devais m'en donner un ou deux, voilà, les premiers qui te viennent à l'esprit, ou même des retours de voyageurs, comme tu viens de nous dire là, ça peut être intéressant.
Moi, je crois qu'il y a, j'ai plusieurs moments, évidemment, mais il y a des moments qui sont très forts avec deux groupes que j'ai pu amener chez Ati et Duinec, donc dans la communauté indigène. c'est une famille arhuaca. Et voilà, des moments dans la cuisine, des moments de musique, des moments où les familles tissent le fil pour fabriquer leurs habits ou leurs mochillas. Voilà, la découverte de je récolte du coton dans l'arbre, j'en enlève les graines et je le nettoie, et avec ça je tisse du fil pour faire demain les habits. Enfin, c'est des moments qui sont assez forts en termes d'expérience qui sort du conventionnel, on va dire. Donc voilà, et puis en plus Ati et sa sœur Dwinek sont des personnes fabuleuses et qui ont tellement envie de parler de leur communauté, de leur vision. Et voilà, là on passe des moments assez marquants, et c'est d'ailleurs ce qu'ont pu me donner comme retour les voyageurs et les voyageuses.
Je te propose qu'on passe à la dernière partie de l'épisode. C'est un petit ajout de la saison 3, parce que du coup ça c'est le deuxième épisode de la saison 3, donc ça sortira en septembre. C'est la partie inspiration, recommandation. Ça peut rester dans vraiment le domaine du tourisme, mais tu peux t'éloigner un petit peu. Voilà, si tu peux nous dire tes sources d'inspiration au quotidien, ça peut être des personnalités, des œuvres qui t'ont inspiré, des films, des livres, des séries, voilà. Tes recommandations.
Mes recommandations, waouh, je sais pas si je suis légitime pour recommander quoi que ce soit, mais...
Des choses que tu as aimées.
Ouais, bah bon, moi, il y a évidemment mon chemin et mon cheminement personnel, il tend à tenter de proposer l'amour et d'éviter les peurs. voilà, d'essayer de tous les jours aller prendre conscience de nos peurs et les soigner et les effacer pour aller le plus possible vers l'amour. Moi, il y a un bouquin qui m'a beaucoup plu. Alors, c'est des bouquins plutôt comportementaux. C'est les accords Toltec. Et je trouve que dans les accords Toltec, on a beaucoup de réponses sur... les quatre accords Toltec de Miguel Ruiz, on a beaucoup de réponses sur comment vivre ensemble et comment vivre bien avec soi-même. C'est déjà un best-seller, hein, j'invente rien. En plus, moi, je l'ai lu, je devais avoir 12 ans, donc c'est un vieux livre. Mais voilà, je pense que les accords Toltec, et puis c'est vrai que voilà, mes rencontres en Colombie, et notamment la médecine ancestrale, les communautés indigènes, elles nous proposent vraiment de nous reconnecter au vivant et d'avoir une intention de sortir de l'anthropocentrisme et de se remettre au milieu de ce grand tout dont on fait partie. Et voilà, juste prendre conscience de ça, essayer au quotidien de faire du mieux qu'on peut. D'ailleurs, c'est un des accords Toltec. Je veux sortir, moi, de la moralisation et des leçons à donner. On est tous, et j'aime bien, on est tous le con de quelqu'un, hein, comme disait Coluche. Donc, on est tous plus écolo que quelqu'un et moins qu'un autre. On est tous plus alignés que quelqu'un et moins qu'un autre. Et bon, voilà, il faut essayer de faire du mieux qu'on peut. Donc, moi, c'est ce que j'essaye de faire. J'ai décidé de changer de vie pour être cohérent. Alors, aujourd'hui, c'est pas une vie qui me donne les niveaux de confort ou de revenus économiques que je pouvais avoir quand j'étais chez Adidas. Mais en tout cas, je me sens plus aligné, plus cohérent. Donc, voilà, je me satisfais de ça, on va dire. Je fais des choses qui me plaisent et j'avance comme ça. Mais ouais, je pense que ce changement de vie, il a été hyper bénéfique pour moi. Et d'ailleurs, je me sens en bien meilleure santé sur certains sujets. Voilà.
Et si tu avais un message, là, c'est vraiment la question que je pose à chaque fois pour conclure, un message que tu aurais à faire passer aux auditeurs, voilà, le petit mot libre.
Encore une fois, je ne pense pas avoir de message particulier à donner aux auditeurs. Si le sujet, c'est le tourisme régénératif, moi, je veux quand même me positionner comme... pas un académicien ou un théoricien du tourisme régénératif, je suis très content qu'on en parle aujourd'hui. Régénérer, c'est ramener à un état antérieur jugé supérieur. Voilà, donc ça, c'est la définition du Larousse. Mais je pense que notre société, elle a besoin d'être régénérée sur plein de sujets, autant nous, hein, comme civilisation, que les différents territoires. Bah, essayons au quotidien de faire des petits gestes qui tendent à régénérer et ne pas impacter négativement. Voilà. Si le tourisme régénératif, c'est l'après-tourisme durable, je pense que c'est un peu ça ce qui en fait la différence, c'est que dans le tourisme régénératif, on a l'intention d'apporter sa graine, d'apporter quelque chose directement ou indirectement à la régénération d'un territoire ou d'une communauté, et non pas, comme on le proposait dans le tourisme durable ou responsable, d'impacter le moins possible. Et ce n'est qu'une question d'intention, parce que de toute façon, on impacte. Mais au moins dans l'intention, dans la conscientisation, qu'est-ce que je peux faire moi, à mon petit niveau, pour tenter de de régénérer et d'impacter positivement le territoire que je visite et de ne pas être un touriste qui consomme, mais un voyageur conscient et qui a envie d'apprendre et de partager. Voilà.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis sur du coup, le tourisme régénératif peut être vu comme une deuxième étape du tourisme durable, là où le tourisme durable, on parlait beaucoup de protéger le lieu, faire en sorte que rien ne change. Et là, le tourisme régénératif, on va plus loin et on veut essayer de rendre meilleur que ce que c'était avant. Je crois que c'est un peu ça l'idée. C'est théorique.
Voilà, c'est très théorique. Et c'est pour ça que, bon, voilà, il faudrait, certains diront, mais c'est pas régénératif si on peut pas le mesurer. Oui, c'est vrai, bien sûr qu'il faut mesurer en quoi on régénère le territoire. Ça veut dire quoi enfin, moi, il y a un gros travail de fond encore à faire sur la régénération, mais c'est bien parce qu'il y a plein de choses qui éclosent là en ce moment autour du sujet. Je me rappelle, moi, en 2021, quand je parlais de voyages solidaires et régénératifs, des amis où me disaient, mais le tourisme régénératif est régénératif, personne ne va chercher un voyage régénératif. Et je disais, c'est pas grave, moi, c'est ce que je veux faire. Donc, on verra, petit à petit, ça va venir. Là, ça vient, tant mieux. Mais encore une fois, je ne suis pas ni un expert. Voilà, moi, je souhaite promouvoir des intentions de voyage, qu'elles soient le plus régénératives possible. Voilà à quoi je me concentre.
C'est que le début du tourisme régénératif. Il y a encore plein de choses à faire, ça va arriver. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de plus d'informations sur le tourisme régénératif et si on est intéressé par tes voyages, tout simplement?
Alors, s'il vous plaît, allez sur ma chaîne YouTube Solidérance. Vous tapez Solidérance dans YouTube et il y a les 8 vidéos des 8 familles. Ce sont des vidéos de 4 à 6 minutes et avec ces vidéos, vous comprendrez un peu mieux l'environnement, l'intention de Solidérance. Ces vidéos présentent les familles et ce que vous allez pouvoir y vivre et l'environnement. Donc, allez sur YouTube, allez voir les vidéos. Et puis, bien sûr, Instagram, une page Internet, un Facebook, un LinkedIn. Bon, voilà. Voilà. Mais les vidéos sont quand même un super outil.
Ce sera en lien description. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui, Adrien. On a découvert plein de choses. Et donc, merci.
Merci, Elisa. À très bientôt.
C'est la fin de cet épisode du Verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.